Il est midi, bonjour à tous. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite, quelques titres du journal de 12h30 présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le régime syrien organise aujourd'hui des élections législatives dans les régions qu'il contrôle, tout en préparant ses forces pour une bataille décisive dans la province d'Alep, et alors que des négociations de paix reprennent à Genève. Explication tout à l'heure, tentative d'explication de cette situation assez paradoxale tout à l'heure avec Éric Biegala. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi intitulé projet de loi égalité et citoyenneté qui vise à rendre plus équitable entre les territoires les attributions de logements au sein d'un parc HLM. Le gouvernement entend ainsi agir sur le logement social pour atténuer, je cite, la ghettoisation de certains quartiers en imposant aux bailleurs sociaux des pratiques plus équitables et aussi aux maires récalcitrants le respect de la fameuse loi SRU qui les oblige à avoir 20 à 25% de logements sociaux. Le ministre français des Finances maintient ses prévisions de croissance et de déficit public pour 2016. La croissance selon Bercy devrait s'établir à 1,5% du PIB cette année comme l'année prochaine. C'est des pronostics nettement plus optimistes que ceux de la Commission européenne, mais surtout ceux du FMI qui table, lui, sur une croissance de 1,1%. Et puis, on parlera également du Parlement européen qui est saisi aujourd'hui d'une directive sur la protection des savoir-faire, des informations commerciales non divulguées et aussi contre l'utilisation et la divulgation illicite de données. C'est ce qu'on appelle, pour être clair, le secret des affaires, et les détracteurs du texte considère ce texte comme dangereux, restrictif aussi pour les droits à l'information. On en parlera notamment avec l'invité de la séquence interview, Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte, auteure du livre « La femme qui en savait trop, les coulisses de l'évasion bancaire en Suisse » aux éditions du Cherche Midi. Voilà pour les titres, c'est à vous Caroline, la Grande Table.
Merci, à tout à l'heure Antoine, merci. Mais vous le disiez, c'est aujourd'hui qu'était présenté en Conseil des ministres le projet de loi égalité et citoyenneté qui vise à lutter contre la ghettoisation en rendant plus équitable entre les territoires l'attribution de logements sociaux. Eh bien, c'est aussi aujourd'hui qu'ouvre une exposition à la Cité de l'architecture et du patrimoine intitulée « Habiter le campement, architecture de nomades, voyageurs, contestataires, conquérants, infortunés, exilés ». À cette double occasion, nous avons construit une émission entière autour de cette notion d'habitat, de logement. En dernière partie, nous recevrons le constructeur, c'est comme ça qu'il se présente, Patrick Bouchain. Et pour ouvrir cette émission, nous poursuivons notre réflexion sur les lieux, la ville comme source d'inspiration artistique. Une réflexion entamée hier avec la cinéaste Claire Simon à propos de son film qui sort aujourd'hui en salle, sur le bois de Vincennes. Mais nous revenons aujourd'hui au cœur de la ville en compagnie de deux écrivaines à travers les quartiers, les rues, les immeubles, les habitants. Joyce Ormand.
Bonjour.
Vous publiez L'Inhabitable aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète. C'est une réédition complètement refondue, on va le voir bien sûr en détail, d'un ouvrage issu d'une enquête que vous aviez faite en 2010 dans certains quartiers de Paris et en particulier dans certains immeubles de Paris, immeubles considérés comme insalubres et en cours de réhabilitation en 2010. Anna-Louise Milne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une historienne de la littérature française et vous publiez votre premier ouvrage, 75, aux éditions Gallimard, un livre dans lequel vous retracez l'histoire d'une petite rue du nord de la capitale au moment où les travaux de réhabilitation bouleversent la physionomie de ce quartier. Je voudrais d'abord commencer avec vous deux sur la forme de vos livres, parce que c'est des formes très particulières, assez inclassables. Pour vous, Anna-Louise Milne, c'est comme un roman sans fiction, mais c'est pas exactement un roman non plus, c'est un livre qui est à cheval entre la poésie urbaine, l'archéologie intime, s'il est question de souvenirs et de mémoire, et puis une étude historique, puisque vous avez aussi été sur les traces d'une imprimerie, on va y revenir. Quant à vous, Joyce Ormond, c'est donc le fruit d'une enquête, et le livre se présente à mi-chemin entre un reportage et un récit. Est-ce que dans les deux cas, je sais pas, ce n'est pas pour chercher un mot qui classerait, qui classifierait vos ouvrages, mais juste pour bien faire comprendre à l'auditeur qui nous écoute à quoi on a affaire. Est-ce que le mot dans les deux cas d'enquête littéraire vous conviendrait, Joyce Ormond?
Oui, moi, il me convient tout à fait. Je le revendique même. C'est vrai qu'il y a une espèce de point de départ, on pourrait dire journalistique, documentaire, d'enquête, c'est-à-dire de tentative de relevé objectif d'une situation, d'un état de fait, et qui a un lien très direct avec l'état de la société contemporaine, l'état politique, économique, mais littéraire. Pas seulement parce qu'il y a pour moi un souci de la langue et que je me considère comme écrivain, donc mon métier premier c'est de faire des phrases quand même, mais aussi littéraire parce que je m'inclus en fait dans le reportage, c'est-à-dire que je me tiens pas à une objectivité journalistique si tant est que ça existe, mais je m'inclus comme un personnage en fait dans le récit, et c'est vrai que de temps en temps je passe une tête, je prends la parole ou je fais part d'une sensation, d'un état d'esprit, voire d'un jugement, même si je voulais absolument pas du tout porter de jugements moraux sur cette enquête, mais en tout cas je me mets en scène comme un personnage au même titre que les rats qui courent dans l'escalier ou les gens que j'interroge. Donc c'est en ce sens-là que l'aspect littéraire est important aussi pour moi.
Anna-Louise Milne.
Et moi je dirais que à la limite j'aurais pu partir sur l'idée d'une enquête étant donné que ma formation est plutôt celle d'une universitaire, mais à la limite moi j'ai voulu rester un peu en deçà de cette démarche plus systématique et la posture que j'ai retrouvée dans ce projet est plutôt une situation, je dirais, presque de précarité assumée, une sorte de, c'est à chaque fois donc le livre se construit autour d'une série de prises de position qui sont à la limite des situations, je dirais, où je me place dans une en équilibre devant une situation, souvent un peu en hauteur d'ailleurs, c'est presque comme si je me donne des promontoires sur la ville, mais à chaque fois c'est très fragile, c'est une sorte de et moi je n'ai pas voulu quelque chose de l'ordre de d'une enquête, j'ai voulu surtout une sorte de réactivité délicate, dans une sorte de recherche de forme d'expression.
Une réactivité délicate et néanmoins, vous parlez, Anna-Louise Milne, de prise de position. Oui. Est-ce que pour vous deux d'ailleurs, la littérature vous permet aussi de poser un regard d'écrivain, encore une fois, mais sur l'urbanisme, sur des problèmes urbanistiques, des problèmes sociaux et des problèmes politiques. C'est assez évident dans le cas de votre ouvrage, de votre enquête, Joyce Ormond. Ça l'est peut-être un petit peu moins dans le cas de votre 75, ouais. Anna-Louise Milne, mais malgré tout, prise de position, c'est aussi vous positionner par rapport à un certain état de fait, disons.
Oui, oui, oui. Mais en même temps, cet équilibre est aussi tout le temps, je pense, une sorte de déséquilibre. Pour moi, il s'agissait vraiment de me lancer. Et donc, il y a justement une sorte de perte d'équilibre qui serait peut-être celui de cette formation, de cette solidité de prise de position pour aller plus vers une découverte. Moi, dans ce projet, j'ai vraiment redécouvert, renouvelé l'expérience d'une sorte de premier élan, je dirais, de cette projection qui était à l'origine pour moi le fait de venir en France, tout simplement.
Donc, parce que vous êtes écossaise.
Donc, oui, je suis écossaise. Et donc, je retrouve à travers ce livre l'improvisation, je pense, c'est vraiment le mot qui me vient, qu'il faut quand on arrive dans un lieu, quand on arrive dans un pays, quand on arrive dans une langue aussi, où il faut être à tout temps, à tout moment, un peu à l'écoute, à l'affût de détails, de signes, de sens possibles, à se demander comment on va se placer, comment on va se voilà, comment on va s'adapter aux attentes qu'on a de vous. Et donc, moi, c'était, c'est vraiment ce sentiment aussi d'être exposé, de s'exposer à ce qui vient vers moi, qui était très fort dans cette découverte de cette petite rue.
Je parlais de la ville, des lieux comme source d'inspiration artistique. Et là, je me tourne vers votre deuxième ou votre première casquette, Anna-Louise Milne, puisque vous êtes une historienne de la littérature française. Est-ce qu'il existe une littérature, disons, du mal logement? Est-ce que on parle souvent dans les romans de la ville à travers ses quartiers populaires? Et est-ce que pour construire votre propre récit enquête déséquilibrée, vous vous êtes nourrie de ces romans français?
Oui, je pense qu'il y a effectivement une écriture française qui est assez particulière, qui est une écriture de la ville, une espèce de prose urbaine, mais en même temps, donc c'est explicite à un moment donné dans le livre, ce n'est plus du tout le même littérature donc du 19e siècle, la littérature de Zola, c'est autre chose, c'est une littérature qui est dans une un entre-deux, dans une recherche de forme, et qui on peut penser bien sûr à des textes de Pérec, donc ça rejoint donc l'origine, je pense, du livre de Joy et à plein d'autres auteurs.
Oui. Vous parlez de Georges Pérec qui est effectivement présent dans le livre de Joy Sorman. L'inhabitable, c'est un passage d'espace de Georges Pérec. Je vous propose donc d'écouter la lecture par Irène Omelianenko de cet inhabitable dans Espèce d'espace de Georges Pérec, lecture qui date de 1988.
Ce matin, Monsieur Sudreau, commissaire général à la construction et à l'urbanisme pour la région parisienne, Monsieur Lévesque, président du conseil municipal de Paris, divers conseillers municipaux, des photographes, des journalistes ont visité la cité Le Sage, plus lourde.
L'inhabitable. La mer, des potoirs. Les côtes hérissées de fils de fer barbelés. La terre pelée, la terre charniée. Les monceaux de carcasses. Les fleuves bourbiers. Les villes nauséabondes. L'inhabitable. L'architecture du mépris et de la frime. La gloriole médiocre des tours et des buildings. Les milliers de cagibis entassés les uns au-dessus des autres. L'esbrouffe chiche des sièges sociaux. L'inhabitable, l'étriqué, l'irrespirable, le petit, le mesquin, le rétréci, le calculé au plus juste. L'inhabitable, le parquet, l'interdit, l'encagé, le verrouillé, les murs hérissés de tessons de bouteilles, les judas, les blindages. L'inhabitable, les bidonvilles, les villes bidons, l'hostile, le gris, l'anonyme, le lait, les couloirs du métro, les bains-douches, les hangars, les parkings, les centres de tri, les guichets, les chambres d'hôtel, les fabriques, les casernes, les prisons, les asiles, les hospices, les lycées, les cours d'assises, les cours d'école, l'espace parcimonieux de la propriété privée, les greniers aménagés, les superbes garçonnières.
Joy Sorman, l'inhabitable, ça part de là, de cette définition dont on retrouve une partie dans votre ouvrage.
Oui, c'est vrai que la matrice de mon livre, c'est effectivement ce passage d'espèce d'espace. Enfin, Pérec est une influence, une inspiration très forte pour moi. Il l'a été déjà dans d'autres livres. Mais ce qui m'intéresse, au-delà de la question effectivement de l'inhabitable, c'est, pour reprendre une expression aussi de Pérec, qui est l'infraordinaire. Pérec a écrit entre autres un petit ouvrage qui s'appelle L'infraordinaire, qui est une sorte de manifeste littéraire dans lequel il invite les écrivains à se pencher sur ce qui fait la matière la plus banale et la plus ordinaire de nos vies. Même en dessous de l'ordinaire, l'infraordinaire. Il dit qu'il faut réinterroger nos manières d'habiter, de manger, de se vêtir, de circuler dans l'espace, etc. Et cette espèce de rapport minuscule à l'existence m'inspire beaucoup, et il me semble, alors la littérature elle a mille missions ou mille directions, mais ce qui m'intéresse moi dans la littérature, c'est ces deux choses, à la fois d'interroger ce qu'on a sous les yeux et ce qu'on arrête de voir parce que précisément on l'a sous les yeux, ce à quoi on est tellement habitué qu'on ne le regarde plus, par exemple les rues dans lesquelles on passe tous les jours, et c'est effectivement ce que fait Anna-Louise. Et puis, l'autre chose aussi, c'est de montrer que ce qui nous paraît le plus évident est en fait extrêmement complexe. Et pour moi, la littérature, elle n'a pas vocation à éclairer les choses et à les expliquer. Au contraire, à les rendre plus opaques, à montrer qu'elles sont, qu'on ne peut pas trancher. Et là aussi, je trouve que c'est un point commun entre le livre d'Anna-Louise et le mien. Anna-Louise aussi, dans son livre, à un moment, parle d'inhabitabilité. Et ce qui m'a frappée, c'est dans le travail d'enquête qu'on a fait toutes les deux, à savoir d'aller interroger les gens qui vivent dans ces taudis, toutes les deux, on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'était pas évident que ces gens aient envie de quitter les taudis, qu'il n'était pas évident qu'ils aient envie de quitter leur vie avec les rats, leur vie dans le froid, l'insalubrité, la menace, parce que c'était chez eux, et que voilà, avec nos deux livres, ils interrogent cette question essentielle de savoir qu'est-ce que ça signifie chez soi, qu'est-ce que ça signifie habiter, et habiter un taudis, c'est pas forcément le signe d'une existence misérable pour ceux qui habitent, en tout cas.
Déchets divers, paysages décevants, chemins souvent impraticables. Je ne vous conseille pas de venir. C'est la petite notice de TripAdvisor, Anna-Louise Mill, que vous mettez en exergue de votre ouvrage 75, TripAdvisor, que vous avez consulté en mars 2010, oui. Et qui parle de ces lieux, effectivement, que vous avez fréquentés pour cet ouvrage. Mais c'est vrai qu'on sent comme, je sais pas si c'est de la nostalgie, mais chez ces habitants, la volonté de rester là, même si on réhabilite ces lieux, parce que c'est l'histoire du quartier, parce que c'est son histoire, parce que ça crée du lien social. C'est pas évident d'arriver à se dire ça, Anna-Louise Mill.
Absolument, et puis c'est vrai que donc je vous conseille pas de venir, et pourtant j'y suis allée, hein, et j'y suis allée très régulièrement, et je pense que comme Joy, j'étais déjà dedans d'une certaine manière. Donc il y a après l'écriture, la fréquentation quotidienne presque était une sorte de donc permettait un recul qui était essentiel pour le projet, mais le fait d'y être déjà, hein, donc et de me sentir vraiment partie prenante de cet environnement, pas du tout à l'extérieur. D'ailleurs, j'y allais pour des raisons de ma vie, hein, ma vie quotidienne, et je m'inclus complètement dans cet environnement. Et je pense que déjà, donc, c'est il n'y a pas du tout de nouveau une sorte d'objectivation par rapport à ce lieu. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de ma vie, et ça me semble très important. Donc et c'est vrai que en relisant le passage de Perec dans le livre de Joy, je me suis dit bon, les bidonvilles, on peut les habiter, on les habite, hein, on les habite pleinement. C'est les villes bidons qu'on peut pas vraiment habiter, hein. Donc l'inhabitable, c'est le bidon, hein. Mais là, c'est un lieu qui, ouais, se hérisse de vie, et le mot hérissé, voilà, de d'humidité et de toute cette tous ces murs qui sont en train de s'écrouler. C'est clair que c'est, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la texture de ces lieux qui est très très fort dans les deux livres. Mais justement, c'est ce qui est vivant, hein. C'est aussi bien matériel qu'humain.
C'est ce qui est vivant, mais c'est aussi ce qui a disparu, parce qu'il y a un autre point commun dans vos deux livres, outre ce rapport à l'espace, même si c'est un espace étroit parfois, c'est aussi un rapport au temps. Il y a dans vos deux livres, aujourd'hui, et hier, vous êtes allé, Joy Sormand, donc faire une enquête en 2010 sur 6 immeubles insalubres de Paris, le 125 rue du Faubourg du Temple, le 31 rue Ramponneau, le 10 rue Matisse. Je ne vais pas tous les citer parce que ça ne parle pas forcément nécessairement à tout le monde, mais disons que c'est regroupé entre le 10e, le 18e, le 19e et le 20e arrondissement de Paris. Et vous y êtes retourné 5 ans plus tard. Et les deux temps sont visibles, sont présents dans l'inhabitable, dans votre livre aujourd'hui. De la même façon, Anna-Louise Mill, il existe dans votre livre 75 comme des vestiges du passé, d'un passé qui a disparu ou qui va disparaître, puisque ces immeubles vont peut-être être démolis. Mmh. Mais il existe aussi un passé qui est plus ancien, qui est le passé de la Deuxième Guerre mondiale, à travers l'histoire que vous étudiez de cette imprimerie située là-bas, l'imprimerie Lang, qui est située dans ce coin-là. Je voudrais vous proposer d'être entre deux, c'est-à-dire entre la Deuxième Guerre mondiale donc et aujourd'hui, en 1958, avec une archive de Lina, archive de Frédéric Potcher, qui était chroniqueur judiciaire très dramatique de la radio-télévision française à ce moment-là. Là, c'est pas une chronique judiciaire, mais écoutez.
Ce matin, Monsieur Sudreau, commissaire général à la construction et à l'urbanisme pour la région parisienne, Monsieur Lévesque, président du conseil municipal de Paris, divers conseillers municipaux, des photographes, des journalistes ont visité la cité Le Sage-Bulourde, située dans le 11e arrondissement, à deux pas de la Bastille, cité qui va être détruite. Cette cité, qui couvre 5000 mètres carrés, fait partie de l'îlot insalubre numéro 6. La cité Le Sage-Bulourde est l'un des cancers de Paris, une des hontes, un des scandales les plus atroces de notre ville dite Lumière. 876 personnes y vivent, dans des alvéoles, découpées, dirait-on, dans la crasse, la pourriture et les déjections. Parmi ces 876 humains, tassés dans ces infects réduits, à raison parfois de 6, 8, voire 10 par pièce, d'environ 4 mètres sur 5 ou 6, il faut compter près de 200 enfants, 200 moutards qui pataugent dans des bouts innommables, trépignent sur des couches de détritus de toute nature et que l'on n'enlève même plus. D'où viennent ces gosses souvent poisseux, crasseux et remuants? Eh bien, ils viennent de Tunisie, d'Algérie et aussi, ne faisons pas les malins, de Bretagne et du Massif central.
Joyce Ormond, le choix des mots, la façon de parler, je ne sais pas ce que ça fait en vous, comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre. 1958.
Non, mais finalement, on dit qu'aujourd'hui, on veut transformer Paris en ville musée, qu'on veut que ce soit bien ordonné, bien propre. On démantèle les bidonvilles de Roumains sur la petite ceinture. On repousse sur Offrange la saleté. Bon, mais finalement, c'est pas nouveau. En 58, c'était déjà ça. Mais ce qui est frappant, outre le racisme du propos, c'est toujours cette espèce d'inadéquation entre le discours politique et la réalité d'une ville. La réalité biologique d'une ville, je pense que là aussi c'est un point commun de nos deux livres, c'est-à-dire que on montre à quel point les villes sont des organismes vivants. Moi, je parle de biotope de béton,
de pierre de taille et de zinc.
Voilà, de pierre de taille et de zinc, et que une ville est cette espèce d'organisme vivant qui attire irrépressiblement la misère du monde, comme on le voit aujourd'hui avec les migrants, qui est la ville, c'est le lieu où refaire sa vie, c'est le lieu où renaître, c'est le lieu où se fondre dans l'anonymat, c'est le lieu où tout recommencer, et que toutes les difficultés et les misères du monde arrivent dans les villes qui sont des lieux où on espère ou se refaire ou alors disparaître. Donc éradiquer l'insalubrité, par exemple, c'est un vœu pieux, parce que outre le fait qu'il y a une dégradation naturelle du bâti, la ville, c'est le lieu de la circulation et c'est le lieu de voilà des modifications incessantes et des migrations. C'est le lieu des migrations. Donc cette volonté politique de faire disparaître comme par magie ces poches de misère, elle est depuis 1958, on s'est toujours pas rendu compte qu'elle était illusoire.
Votre enquête a paru une première fois il y a 5 ans, donc à un livre que vous aviez écrit avec Éric Lapierre, qui avait fait des photographies. Vous êtes donc retourné dans les endroits, Joyce Ormond, où vous étiez allé, sans doute pour voir si l'habitable s'était substitué à l'inhabitable. Je voudrais qu'on prenne un exemple. Prenons le premier, le 125 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement de Paris. C'était un taudis et vous avez constaté 5 ans plus tard qu'il était transformé en pension de famille et en résidence sociale. Mais c'est des termes très très précis.
Oui, ce sont des termes qui correspondent en réalité à des normes architecturales, c'est-à-dire que dans cette vaste résidence HLM, pour le dire vite, il y a un certain nombre d'espaces qui étaient réservés à des SDF en reconversion, donc des petits studios. Il y a d'autres espaces plus grands qui étaient réservés à des familles monoparentales, d'autres à des personnes en situation transitoire. Et donc, en fonction des situations sociale, il y a effectivement des nominations architecturales. Donc et c'est vrai qu'à toutes les adresses auxquelles je suis revenue, celle-là me semblait la plus réussie, entre guillemets, la plus proche d'une petite utopie immobilière, comme je le dis, parce que déjà les lieux étaient beaux, il y avait un jardin, c'est aéré, et surtout c'était un lieu où il y avait beaucoup d'espaces collectifs, où les gens pouvaient se retrouver, où les enfants pouvaient se retrouver, où on pouvait faire la cuisine ensemble. Donc là, j'assistais à une espèce de petite réussite, mais il y a très peu de résidences comme ça dans Paris, parce qu'elles coûtent beaucoup plus cher à construire que les HLM classiques, où là sont des clapiers à lapin les uns derrière les autres. Ça coûte plus cher à mettre aux normes. Donc comme c'est plus coûteux, c'est très rare qu'on aboutisse à ces programmes immobiliers à l'intérieur de Paris, malheureusement.
Mais c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à le faire ou que les politiques publiques n'ont pas mis les moyens pour réhabiliter correctement ces lieux qu'on ne peut pas rêver à ce que ce le soit, c'est-à-dire des espaces quand même où les gens vivent mieux, dans des endroits propres, dans des endroits salubres, où on peut créer des espaces collectifs et une solidarité, ce qui ressort de votre 75, Anna-Louise Milne. Formidable solidarité de ces rapports au quotidien dans ces endroits. J'espère que on ne vit pas bien ensemble dans des espaces sales seulement. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est compliqué d'arriver à se dire oh, oui, mais quand même, il y avait tellement de liens sociaux dans ces espaces, ils ont du mal à vouloir être logés ailleurs. Bah, on peut espérer quand même mieux dans des endroits plus beaux, voilà.
Tout à fait. Oui, mais moi j'étais très sensible à la fin du livre de Joy où elle parle justement de cette ambivalence du fait d'être relogé. Et je pense que toute la difficulté, c'est comment arriver à ne pas être simplement dans une espèce de assignation, même si cette assignation est matériellement plus meilleure que ce qu'on a connu. Hein, c'est quand même cette idée de d'être placé quelque part, hein, d'être alors que je pense que tout le monde, notamment ceux qui arrivent dans une ville, et je m'inclus là-dedans, c'est une volonté de se faire une place. Et une grande différence entre se faire une place et en quelque sorte, se réconcilier à la place qui vous est faite. Et c'est très drôle, la fin, la dernière phrase du livre de Joy parle justement de cet relogement comme une expérience de béance à la fois heureuse et incertaine.
Insondable.
Insondable, voilà. Donc il y a sorte de, et pour moi, le début de mon livre est justement cette béance. C'est le chantier qui est une béance. Et pour moi, cette ouverture dans la ville inattendue est une sorte aussi de me donne la possibilité en quelque sorte de m'installer et de me faire une place aussi bien là avec les gens qui sont là, mais aussi donc du coup dans la langue.
Mais je est une narratrice qui rencontre le chef de chantier de ce chantier, Christopher, qui le fait visiter, qui lui fait visiter le chantier dans ce quartier en réhabilitation. Et puis il y a aussi un personnage qui est un personnage principal, une femme âgée qui a 75 ans. Donc 75, c'est à la fois Paris et sans doute
plus que
cette
ça, femme. C'est 75 ans de vie.
De villa, exactement. De villa, tout à fait. Et cette femme, c'est la mémoire du quartier.
Oui, en quelque sorte. Et puis c'est aussi c'est la mémoire du quartier, mais une mémoire qui va lâcher que de petites bribes. Hein. Donc il y a quelque chose en même temps de où il a fallu vraiment apprivoiser en quelque sorte cette parole et cette mémoire. Et c'est seulement à travers quelques petits éléments qu'elle va me confier qu'on arrive petit à petit à tisser un lien, à se connaître, à partager des choses. Donc
tisser un lien entre elle et la narratrice, tisser un lien aussi entre ce passé donc et ce présent, puisque elle et son mari ont toujours vécu là, et ils sont au croisement des deux objets principaux de votre livre, Anna-Louise Milne, à savoir le premier sur les logements insalubres, la transformation d'un quartier vu par ses habitants, et puis le deuxième donc sur l'histoire d'une imprimerie, l'imprimerie Langue de la rue Curial. Pour le coup, vous avez fait des recherches d'historienne sur cette imprimerie-là.
Oui, justement, parce que de nouveau, je suis tombée un peu sur des archives, donc des archives partielles, pas du tout complètes. Et puis là, je dirais que ma démarche a été encore une fois de construire à partir de petits restes, de bribes, de trouvailles. Il y avait des trouvailles assez extraordinaires dans ces cartons d'archives. Donc c'est pas assez loin d'être une enquête complète, mais qui permet justement, je pense, de retrouver la profondeur de cette histoire et de replacer cette petite rue un peu au cœur de l'histoire française de la deuxième moitié du XXe siècle.
We'll be right back.
On se quitte sur cet extrait de la bande originale du film de Cédric Lapie, Chacun cherche son chat, qui filmait le vieux Bastille, le quartier de la Bastille à Paris, à travers ses habitants et la confrontation de ses habitants d'hier et d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les deux. Anna-Louise Milne, 75, c'est aux éditions Gallimard, de même qu'est paru aux éditions Gallimard votre livre Joyce Ormond, L'inhabitable, dans la collection de l'Arbalète. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci.